Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Oui, je sais, vous êtes nombreux à faire des efforts tout au long de l'année pour mieux manger, surveiller votre poids comme le lait sur le feu, bouger, marcher, manger 10 fruits et légumes par jour, avaler davantage de légumineuses, de graines, moins ou pas de viande, un peu de volaille ou pas du tout. Et vous voyez se profiler avec un peu d'inquiétude les libations de fin d'année, dinde, pintade, foie gras, chocolat, pommes sautées à la graisse de canard, bûche, liqueur, vin, digestif, le beurre et la mayonnaise qui accompagnent les fruits de mer et les crustacés, sans oublier les pains gourmands, le panettone, les biscuits de Noël, les liqueurs, le champagne. Alors comment ne pas trop prendre de poids pendant cette période, surtout quand on multiplie les repas de fête dans la famille recomposée, chez la belle famille ou chez les cousins germains? Comment rester un bon vivant en limitant la casse? Nous vous proposons ce matin des pistes pour profiter des repas de fête sans culpabiliser, avec gourmandise et légèreté. Nous verrons si trop surveiller sa consommation de sucre et de gras pendant cette période, lutter contre ses envies de manger, conduit ou non à prendre du poids de façon inexorable. Bref, faut-il vraiment se contrôler pendant les fêtes? Avec nous ce matin, le médecin nutritionniste Jean-Philippe Zermati et la blogueuse Héloïse Brion, créatrice de Miss Maggie's Kitchen. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Au menu de votre ordonnance philosophique vers 11h25.
Eh bien, une petite expérience pour profiter des plaisirs de ces repas de fête sans excès. Soyez épicurien.
Et c'est le grand retour de notre ami Thierry Lhermitte. Bonjour Thierry.
Bonjour Ali.
Vous êtes l'un des ambassadeurs de la Fondation pour la Recherche Médicale. Tous les mois, vous rencontrez une équipe de recherche. Ce mois-ci,
j'ai rencontré le professeur Vahid Aznafi à Necker Enfants Malades, qui est spécialiste d'une leucémie particulière.
A tout à l'heure en fin d'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour docteur Jean-Philippe Zermati.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, thérapeute comportementaliste, spécialiste des troubles alimentaires et vous publiez chez Odile Jacob « Osez manger, libérez-vous du contrôle ». Question préalable que je pose à la plupart de nos médecins nutritionnistes, est-ce que vous avez un conflit d'intérêt actuel ou passé avec l'industrie agroalimentaire?
Non, j'ai aucun lien avec l'industrie.
Parfait. Bonjour Héloïse Brion.
Bonjour.
Vous avez créé le site Miss Maggie's Kitchen et vous publiez chez Flammarion un très beau livre chez Miss Maggie's Kitchen. Oui. Alors est-ce que la question de la prise de poids pendant les fêtes vous paraît incongrue, Jean-Philippe Zermati?
A priori, elle ne devrait pas se poser, à dire vrai. C'est-à-dire que cette inquiétude qu'on a vis-à-vis de ces repas de fête, c'est quand même un phénomène assez récent qui n'a pas toujours existé et qui ne devrait pas être considéré comme quelque chose de strictement normal. Les fêtes ont toujours existé, les excès ont toujours existé, et ça n'a jamais posé de problème.
Alors, comme le remarquait dans Le Point il y a 15 jours, Jacques Dupont, le bon vivant n'a plus la cote. Je le cite, le bon vivant est désormais pisté, corrigé, culpabilisé par un bataillon de spécialistes qui, chaque semaine, clouent au pilori le gras, la viande, les sauces, le vin. Il doit picorer des graines, bouffer des vieux légumes fibreux, s'enthousiasmer pour un gâteau 100% courgette, s'enflammer pour un steak au tofu.
Alors,
le bon vivant n'a plus la cote en ce moment.
On est un peu bombardé, le bon vivant a du mal à vivre, hein, parce qu'il est un peu bombardé de quantité d'injonctions de ce qu'il doit manger ou ne pas manger, au point qu'il ne sait plus du tout ce qu'il doit manger d'ailleurs, il finit par plus savoir. Et il ne sait pas non plus pourquoi ce qu'il ne mange pas, il ne doit pas le manger, et il ne sait pas non plus pourquoi ce qu'il mange, il doit le manger. Donc c'était une espèce de cacophonie comme ça, mentale, qui finalement crée beaucoup plus de stress que de tranquillité d'esprit.
Et Loïse Brion, vous la sentez cette cacophonie mentale?
Je suis tout à fait d'accord. Tout d'un coup, il faut boire que du jus de céleri, ensuite il faut faire que ci, que ça. Je trouve que c'est pas bon, et je pense que du coup les gens ont tendance en plus à prendre du poids à cause de ça, parce qu'ils se sentent tellement coupés quand ils mangent un morceau de chocolat, qu'ils le retiennent, leur corps le retient beaucoup plus longtemps.
Jean-Philippe Zermati, pourquoi, de votre point de vue, on commet une grande erreur quand on s'obstine à contrôler mentalement son comportement alimentaire?
Alors, en fait, quand on commet une erreur si on essaie de contrôler pour perdre du poids. Mmh. C'est dans le domaine de la perte de poids que ça pose un vrai problème. Parce que le comportement alimentaire est normalement, il est naturellement contrôlé. Il est contrôlé par deux systèmes. Il y a un système de la faim qui vous dit de quoi vous avez besoin, et ce système va déclencher un autre système qui est le système des envies. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous aider à manger. Vous allez avoir envie de ce dont vous aurez besoin. c'est un peu magique et ça marche très bien quand on le laisse faire. Si vous ajoutez, si vous interférez avec ce qu'on appelle avec du contrôle mental, vous empêchez ces systèmes naturels de fonctionner. Et ce contrôle mental va complètement désorganiser ces systèmes physiologiques et naturels qui sont chargés de s'occuper de la régulation du poids et entraîner des troubles du comportement alimentaire. Et bien souvent, et ça c'est les études qui le montrent, ce contrôle mental ne permet pas de protéger le poids. On voit que le contrôle mental, c'est les régimes, c'est faire attention, c'est se surveiller tout au long de la vie. Et on voit bien que les personnes qui sont dans ces schémas, tout au long de la vie, ont finalement un poids qui aurait tendance à plutôt augmenter.
Je vous cite, la majorité des prises de poids résultent de dérèglements portant sur le système des envies de manger.
On pourrait schématiser et dire que finalement, quelqu'un qui grossit, c'est quelqu'un qui a plus d'envie que de besoin. Et son système, c'est-à-dire qu'en fait, son système des envies n'est plus l'expression de ses besoins.
Comment fonctionne ce système des envies ?
Le corps, le cerveau va détecter un besoin dans le corps, un besoin d'énergie. Ça va stimuler ce système des envies en entraînant une stimulation de dopamine. La dopamine, c'est le médiateur du désir. Et ça va vous pousser à rechercher l'élément dont vous avez besoin. C'est-à-dire, vous allez avoir envie, grâce à cette dopamine, de trouver dans votre environnement l'élément dont vous avez besoin. C'est pas vrai uniquement pour de la nourriture, hein, c'est vrai pour beaucoup de choses ailleurs. Une fois que vous allez avoir consommé cet élément cet aliment, cette nourriture dont vous avez besoin, le désir va s'épuiser à condition. Et c'est là que les choses se compliquent, que ce que vous mangez procure suffisamment de plaisir. Si vous n'êtes pas en mesure de ressentir, d'éprouver ce plaisir, le désir ne disparaît pas. Mmh. Et aujourd'hui, compte tenu de la relation qu'on a avec la nourriture, on n'arrive plus à éprouver un plaisir intégral. C'est-à-dire que vous mangez des aliments qui vous font certes plaisir, ou pas d'ailleurs, parce que parfois vous allez vous en empêcher, mais même quand vous consommez des aliments qui vous font réellement plaisir, ils sont, je dirais, un peu pollués par des tâches d'inquiétude, de culpabilité, qui viennent altérer ce plaisir et empêcher l'extinction du désir.
Et Louise Brion ?
Moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est exactement ça. C'est quand on mange avec, on se dit je devrais pas manger ça et etc. Du coup, on ne vit pas le moment de cette belle part de gâteau et donc on en a encore envie. On cherche encore à assouvir ça. Je pense que c'est aussi il y a des compensations émotionnelles aussi beaucoup liées au sucre.
Alors justement, ça c'est un point que j'aborde parce que je dirais que la théorie aujourd'hui, ce serait quand on a une envie de manger émotionnelle. Donc une envie de manger émotionnelle, c'est une envie qui a été déclenchée par une émotion et dans laquelle on n'a pas la sensation de faim. La théorie aujourd'hui, c'est d'essayer de lutter contre les envies émotionnelles et puis de trouver des substituts. Alors tout est bon, hein. Ça peut être d'aller promener son chien, de prendre une douche, un bain froid ou je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est méconnaître un système qui est extrêmement fondamental, qui est la régulation émotionnelle par la nourriture. Mmh. Ce système existe, c'est-à-dire qu'on a besoin de la nourriture pour réguler nos émotions. C'est un système qui maintient à peu de frais un bon équilibre psychologique. Mais le problème, c'est que on ne peut apaiser une émotion qu'avec certaines nourritures, pas toutes. Ce qu'on appellera des aliments réconfortants qui sont des aliments riches, gras et sucrés et qui sont par définition les aliments sur lesquels les gens mettent le contrôle. Ce qui fait qu'ils vont essayer de calmer leurs émotions avec des aliments censés les réconforter, mais qui en même temps, comme il y a du contrôle dessus, sont des aliments chargés de stress. Donc le même aliment produit à la fois du plaisir et du stress. Donc moi, je vous dirais, il est absolument immangeable, cet aliment-là.
Bien sûr.
Thibaut de Saint-Maurice, qui compulse le livre d'Éloïse Brion et qui grossit à vue d'œil en le lisant. Merci. Est-ce que vous allez faire attention pendant les fêtes ? Est-ce que vous allez contrôler votre alimentation, riche forcément, pendant cette période ?
Oui, en tout cas, peut-être avec un principe un peu différent, c'est que aussi, et je crois qu'on est plusieurs dans ce cas-là, si on fait pas attention, en fait, on s'empêche de prendre le plaisir du repas suivant aussi, parce qu'il faut tenir aussi un petit peu la succession des repas. Et au-delà de ce calcul, en fait, c'est peut-être aussi une façon de plus être focalisé strictement sur le plaisir de la nourriture. Parce que, en fait, à un repas de fête, il y a aussi le plaisir d'être ensemble, le plaisir des conversations, le plaisir peut-être de la musique qu'on écoute, etc. Et peut-être que si on est concentré sur uniquement le plaisir de l'alimentation, en fait, on perd aussi la possibilité de multiplier ou de densifier des plaisirs connexes.
Et Louise Brion.
Oui, et puis je pense surtout qu'on n'est pas obligé de manger, de préparer des plats très riches et lourds. Il y a aussi des recettes très savoureuses, sans que ce soit des choses
que vous allez nous délivrer. Que vous allez nous délivrer d'ailleurs tout à l'heure, Héloïse Brion. Allez, nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Bonne journée à l'écoute de France Inter. Sur France Inter.
Tu veux du saucisson à l'ail ?
Oh non.
Bah moi je vais en prendre.
Grand bien vous fasse.
Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Sur France Inter.
10h20, comment ne pas prendre 10 kilos pendant les fêtes, notre thème ce matin. Toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand bien vous fasse.
Oui, j'ai réussi à le récupérer, ça sort du four. C'est brûlant.
Oh, deux desserts, c'est une bûche ?
Non, c'est Cloug.
Ah non. Ah non, 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 non. Monsieur Prescovic, on a fini le dîner et ces personnes allaient partir.
Non, mais il nous jetterait à la rue sans sucre, lui.
Mais moi, j'en veux du déchet.
Oui, écoutez, Pierre, on a bien 5 minutes tout de même. Personne n'appelle en ce moment. Dites-moi, monsieur Preskovic, ce n'est pas le même clou que tout à l'heure.
Ah, c'est parce qu'il a changé, je l'ai colmaté avec les spots.
Ah oui, bien, combien sommes-nous? 5.
Pas pour moi, merci.
Oh, Pierre.
Bon, donne la chatte, alors.
Mais oui, laissez-vous tenter.
Oh, le gâteau, il a pété.
Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable?
Ah oui, c'est vrai, on croirait une boule puante.
Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable.
Mais c'est parce que c'est très chaud. Les spotsy fermentent à la bicuisson, les odeurs s'exhalent.
Ah oui, comme une fausse sceptique, quoi.
Oui, écoute, en réfléchissant, moi je suis grasse comme un loukoum. Alors, je vais m'abstenir.
Grande question, Thierry Lhermitte, est-ce que le clouk fait grossir?
Ah oui, c'est énorme, c'est, rien qu'à le regarder.
En tout cas, pendant les fêtes, on mange beaucoup plus gras et beaucoup plus sucré, à rebours des conseils, des recommandations du PNNS, hein, le Plan National Nutrition Santé. Pendant les fêtes, certains limiteront le foie gras et le fromage, et d'autres la bûche et le chocolat. Régime sans gras contre régime sans sucre, Jean-Philippe Zermati.
Alors ça a été, bon, c'est un grand débat, hein. En fait, c'est un débat qui dure depuis Hippocrate. 2500 ans, on l'a toujours pas tranché, mais en fait, on a quand même maintenant des études, et notamment on a une étude,
une méta-analyse d'Erdre Tobias en 2015. Ouais. Elle a réuni toutes les études connues qui ont tenté de comparer l'efficacité des régimes pauvres en graisse et les régimes pauvres en sucre.
Elle a repris toutes les études qui existent depuis la création des banques de données. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a recensé 3517 études qui comparent l'efficacité d'un régime pauvre en gras avec l'efficacité d'un régime pauvre en sucre. La conclusion, c'est que ça ne fait absolument aucune différence. Que vous retiriez du gras ou que vous retiriez du sucre, du moment que vous retirez des calories, le résultat est strictement le même. Mmh. En gros, pour être un peu provocateur, vous pouvez tout aussi bien maigrir en mangeant des pizzas surgelées que grossir en mangeant des légumes bio. Mmh. Voilà ce que c'est. Voilà ce que disent 3500 études.
Mmh. Et vous martelez que tous les aliments font grossir et qu'aucun n'empêche de maigrir. Si on les mange en quantité, évidemment.
Je dirais que c'est la définition même d'un aliment. Mmh. Un truc qui fait pas grossir, c'est même pas un aliment. Un aliment, par définition, c'est une substance qui doit apporter de l'énergie et qui doit faire grossir. Mmh. Si c'est pas le cas, c'est plus un aliment. Mmh.
Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on incrimine un nutriment, la consommation de l'autre augmente. Par exemple, si je m'abstiens de manger du chocolat, je vais être tenté de manger plus de fromage, par exemple. Ben,
c'est
un système de vase communicant.
C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit partout. Quand on fait des campagnes contre le gras, les gens, en fait, sont sensibles à ces campagnes, ils écoutent les messages, ils réduisent leur consommation de gras. Mais comme il n'y a que deux nutriments sur lesquels on a des leviers, si vous diminuez l'un, l'autre augmente. Donc par exemple, en France, sur les dernières années, on a fait des campagnes beaucoup sur la diminution de la consommation de gras. Elle a baissé de 3%. Bah, mécaniquement, la consommation de sucre a augmenté de 3%.
Et est-ce qu'il existe un consensus scientifique sur le fait que le surpoids est la conséquence des apports caloriques excessifs indépendamment de leur provenance?
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, dans les congrès ou dans les publications, plus personne ne dit que tel nutriment ou tel autre serait responsable plus spécifiquement de la prise de poids. Aujourd'hui, on est tous d'accord, en tout cas au moins les scientifiques, sur le fait que ce sont des excès en calories, quelle que soit la provenance de ces calories, qui vont entraîner une prise de poids.
Thierry Lhermitte.
Oui, mais en dehors du fait de grossir, sur les accidents cardiovasculaires et sur le diabète, par exemple. Là, il y a une influence, quand même.
Alors là, c'est tout à fait différent.
Ouais.
Il faut bien séparer, justement. Ouais. Il faut bien séparer les deux problématiques. C'est-à-dire que le poids est une problématique de quantité. Voilà. Et la santé, à l'inverse, c'est une problématique de qualité de nourriture. Le résultat n'est pas le même si vous mangez 1000 calories de pizza ou 1000 calories de brocoli. Ça n'a pas les mêmes effets sur la santé.
Mais nous sommes nombreux à penser que ce qui est bon pour ma santé ne pourra pas me faire grossir.
Et ça, c'est une
pensée magique.
Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où très souvent un aliment est labellisé santé, on n'imagine pas qu'il puisse faire grossir. C'est comme ça que, par exemple, beaucoup de gens imaginent que l'huile d'olive, qui est très connotée santé, ne peut pas faire grossir. Ou les amandes, maintenant, beaucoup plus récemment, qui bénéficient de cette image favorable des oméga-3, ne peuvent pas grossir.
À juste titre, d'ailleurs.
Juste au titre pour les trois, mais les amandes c'est 600 calories, c'est presque comme du beurre. Donc si on s'imagine que ça fait pas grossir, on peut avoir quelques ennuis.
Jean-Philippe Zermati, pourquoi faut-il écouter le rat qui est en nous pendant les fêtes et également le reste de l'année?
Alors je vois à quoi vous faites allusion.
C'est-à-dire que la peur du manque conduit souvent à la prise de poids.
On a tous une peur de manquer. C'est une peur archaïque qui nous a protégés, qui nous a conduits probablement à survivre. Et dès lors que vous activez ça, cette peur de manque, vous activez en même temps des comportements de stockage. Donc je cite une expérience qui a été faite sur des rats. On dénutrit des rats. Et ensuite, on les laisse, on va les dénutrir plus ou moins, 5% de leur poids, 10% de leur poids, 15% de leur poids. Et ensuite, on les laisse s'alimenter librement. Ce que font les rats, en premier lieu, c'est reconstituer des stocks, avant même de se nourrir. Et plus ils ont été dénutris, plus les stocks sont importants. Et on voit bien sur les images des laboratoires que, en fait, la petite montagne de nourriture qu'ils reconstituent est de plus en plus forte selon qu'ils ont été fortement dénutris. Et on a tous cette peur de manquer et on va tous développer ces comportements de stockage dès lors que cette peur est activée. Si vous mettez du contrôle sur des catégories d'aliments, c'est-à-dire vous dites « je vais limiter » ma consommation de gras, ma consommation de fromage, ma consommation de gâteaux, de féculents, vous activez ça. Et chaque fois que vous mangez du chocolat ou d'une pizza, en gros, vous mangez ça comme si c'était la dernière pizza. Ce qui est très frappant, c'est que même l'intention suffit.
Ah bon ?
L'intention suffit. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez dire... aujourd'hui, j'aimerais bien me faire un petit peu plaisir, mais demain, je ferai attention. Bon, alors demain, on ne sait pas trop déjà ce qui va arriver. Peut-être que vous ferez attention ou peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, cette phrase, elle va vous faire manger. Il suffit de l'articuler, c'est magique. Vous prononcez la formule et vous mangez deux fois plus.
Ça vous parle, Héloïse Brion? Je rappelle que vous êtes la créatrice du site chez Miss Maggie's Kitchen.
Oui, tout à fait. Non, mais puis en plus, j'ai rendu moi avec une mère qui me disait tout le temps 3 secondes de plaisir dans la bouche, 3 ans sur les hanches. Et donc c'est quand même et une grand-mère qui pour elle l'amour passait à travers la nourriture. Donc elle voulait vraiment qu'on mange et qu'on finisse nos assiettes, etc.
Injonction paradoxale. Donc
c'est, ouais.
Quelle est la conséquence de ces injonctions paradoxales? Une mère qui dit tu vas manger peut-être là, tu vas te prendre 3 secondes, 3 minutes de plaisir, mais tu vas voir, tu vas grossir. Et une grand-mère qui à l'inverse incite à manger. Qu'est-ce que ça produit dans le comportement alimentaire?
Dans le cerveau, ça dérègle les processus du rassasiement. C'est-à-dire le rassasiement, c'est le processus qui vous permet de manger la quantité dont vous avez besoin. Et c'est absolument hors de contrôle. Hein. C'est pas vous qui pouvez décider, je suis rassasié à la 10e bouchée ou à la 15e. C'est hors de contrôle et c'est commandé par des processus internes. Donc si vous avez d'un côté « mange pour me montrer que tu m'aimes » et de l'autre côté « ne mange pas parce que ça va dans tes fesses », ces processus sont complètement inopérants. C'est impossible de pouvoir de réussir à se rassasier correctement dans ces injonctions paradoxales.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, ce qui est compliqué, c'est qu'on se rend compte en fait que manger, c'est pas qu'une question d'estomac, de calcul, de calories, etc. C'est aussi un rapport en fait de l'esprit au corps. Enfin, c'est aussi inscrire le fait de manger dans une. On parlait d'intention tout à l'heure, mais en fait dans une disposition d'esprit. Or, souvent, spontanément, je trouve qu'on est un peu dissocié quand on est dans le rapport à l'alimentation. C'est-à-dire, en fait, on nourrit son corps, mais on oublie de penser que son corps, c'est soi aussi. Et j'ai l'impression que ce à quoi vous invitez, c'est à une forme de réconciliation, en tout cas, de considération de la manière dont, en se nourrissant, on peut aussi rassasier son esprit, et où, en étant tranquille ou apaisé, on peut aussi se nourrir plus calmement.
Je suis bien d'accord. Oui, absolument. Il faut absolument que ce soit un acte complet qui réconcilie la tête et le corps, qui connecte la tête à son corps, mais ça devient tellement compliqué pour certaines personnes qu'elles sont poussées à se dissocier, c'est-à-dire en fait à se couper complètement de ce qu'elles ressentent. En fait, ce à quoi on assiste souvent quand le rapport à la nourriture s'est détérioré et est devenu extrêmement conflictuel, c'est que quand les gens mangent, ils sont bombardés de pensées stressantes par rapport à la nourriture. C'est plein de calories, c'est plein de gras, ça fait grossir, je vais louper ma vie, je passe à côté de ma vie, etc. Bon. pour se couper, donc évidemment, on comprend bien que le cerveau n'a pas tellement envie d'aller se prendre un bain de ce genre de pensée. Donc, il va se couper de ses pensées. Mais en même temps qu'il se coupe de ses pensées, il se coupe aussi de toutes les sensations que produisent les aliments. Or, ce sont ces sensations qui, elles, amènent le rassasiement. Mmh. Donc, en se coupant de ces pensées stressantes, et en même temps de ces sensations, on se coupe complètement du rassasiement. Et il y a une déconnexion totale entre la tête et le corps.
Jean-Philippe Zermati, si je vous comprends bien, l'idée, quand on se dit « je vais me lâcher pendant les fêtes », et ensuite, au mois de janvier, le 1er janvier venu, je vais faire un régime, je vais faire attention, ça conduit inexorablement à une prise de poids dans les semaines qui suivent.
Non, pas obligatoirement. En revanche, ça conduit à des excès peut-être un peu exubérants, parce que là, vous êtes en train de manger votre dernier Noël. Quasiment, dans la tête. C'est comme ça que ça va se passer. Alors après, est-ce que ça conduit à une prise de poids? Pas forcément, parce que derrière, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que la personne va se remettre dans le contrôle, dans la restriction. Peut-être qu'elle va réguler tout à fait naturellement. Donc, on ne peut pas prévoir. Mais ce qu'on peut prévoir, c'est que ça va conduire à des excès tout à fait déraisonnables.
Thibaut de Saint-Maurice, quelle est votre ordonnance philosophique ce matin?
Eh bien Alice, je vois bien votre petit œil qui frise et je me dis que vous vous demandez effectivement ce que va bien pouvoir nous dire le philosophe pour ne pas qu'on se resserve de dinde, pour éviter la deuxième part de bûche ou pour ne pas se laisser aller à la 23e huître, vous savez, hein, celle qu'on va regretter quelques dizaines de minutes plus tard et qui va nous condamner à la tisane détox fenouil romarin potiron pendant 3 jours. En marmonnant donc « plus jamais je mange d'huîtres ». Alors pour vos réveillons ou vos repas de famille, je vous propose de faire cette année une petite expérience qui devrait vous permettre d'en profiter encore plus. Alors c'est une petite expérience philosophique, mais à la portée de tous et dont je n'ai pas peur de vous garantir le résultat, je vous propose tout simplement de vivre ces fêtes en bon épicurien.
Mais être épicurien, n'est-ce pas justement le contraire? N'est-ce pas profiter au maximum de tous les plaisirs de la table?
Oui, c'est ce qu'on croit souvent, et parce que dans le sens courant, un épicurien, c'est justement quelqu'un qui aime les plaisirs de la table. Mais au sens strict, c'est tout le contraire. Être épicurien, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire en bon disciple du philosophe Épicure, hein, à peu près la même période qu'Hippocrate, hein, il y a 2500 ans, eh bien c'est précisément faire preuve de modération et ne pas goûter à tous les plaisirs sans limite. Le souci d'Épicure, c'est que nous vivions une vie joyeuse, tranquille, débarrassée des indigestions, des gueules de bois et des états d'âme. Pour ça, il nous faut apprendre à distinguer, parmi les plaisirs, ceux qui sont d'authentiques plaisirs et ceux qui sont de faux plaisirs, parce que leurs conséquences vont être plus déplaisantes que agréables et qu'ils nous font regretter le lendemain d'y avoir cédé. Donc si je me resserre de bûches à la fin d'un repas déjà copieux, je risque de le regretter et de me gâcher donc le plaisir de départ de ce bon repas. La modération à laquelle nous invite Épicure n'est donc pas une modération contre le plaisir, mais au contraire une modération pour un plaisir authentique et durable. Le pari, c'est que un plaisir qui n'est pas excessif et qui n'a donc pas de mauvaises conséquences, eh ben il est finalement plus fort qu'un plaisir excessif. Je profiterai mieux de la fête, si les plaisirs de la fête ne se retournent pas contre moi, et même je pourrais en profiter plus longtemps et aussi plus largement. Parce qu'on le disait un peu tout à l'heure, il n'y a pas que le plaisir de manger et de boire. Hein. Là encore, un bon épicurien, toujours donc au sens un véritable disciple d'Épicure, il va élargir son rapport au plaisir. Il ne se laisse pas aveugler par les seuls plaisirs de la table et il est du coup capable de profiter de beaucoup d'autres plaisirs. Le plaisir de retrouver les gens qu'on ne voit pas souvent ou au contraire de passer encore plus de temps avec des amis proches, mais aussi le plaisir peut-être de la bonne musique qu'on va écouter, de la danse, des rires, le plaisir des conversations que l'on peut avoir, et puis le plaisir de faire plaisir aux autres à travers les cadeaux qu'on va leur faire. Voilà, l'expérience que je vous propose à la suite d'Épicure, c'est finalement un pari un peu paradoxal. Plus on est modéré, plus on est raisonnable et plus on a de plaisir. On n'a donc pas besoin de pousser nos plaisirs jusqu'à l'excès pour en goûter l'intensité, mais au contraire, en les modérant, on va profiter de toute leur densité. Voilà, on peut le dire autrement, le plaisir sera peut-être moindre en quantité, mais de bien meilleur qualité. Voilà, le choix est clair. Si vous voulez vivre mieux les fêtes, bien sûr, mais pas seulement aussi, hein, mettez un peu plus d'Épicure dans votre vie. Et puis en plus, donc là, c'est garanti sans prise de poids.
Le regard de nos invités, docteur Jean-Philippe Zermati, Hélène Brion.
Alors, bon, Épicure, c'est une grande source d'inspiration, hein, pour moi. Hein. Épicure parlait de l'arithmétique du plaisir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un plaisir immédiat vienne ensuite altérer un plaisir ultérieur. Il y a une espèce de ce qu'il appelait l'arithmétique. Et il parlait aussi de l'ataraxie, ce qui est la paix du, en fait, qu'on pourrait comparer au rassasiement. Le rassasiement, c'est la paix du corps, la paix de l'âme. On n'a plus envie de rien. On est rassasié. On est content de plus avoir envie de quoi que ce soit, en fait. Ça, c'est le rassasiement. Et pour arriver à ça, il faut être capable de profiter de ce qu'on mange. Mais alors, quand je dis profiter, il faut absolument que je précise ce que ça veut dire, parce que on peut l'entendre de deux façons différentes. Profiter, ça veut pas dire essayer d'en manger le plus possible. Profiter, ça veut dire être complètement présent à ce qu'on mange, à ce qu'on fait, et ne pas s'embarrasser de quoi que ce soit d'autre que ce qu'on est en train de faire. Et c'est très compliqué dans ce monde-là. D'abord parce que ça suppose d'être très attentif à ce qu'on est en train de faire, et l'attention, c'est quelque chose qui est en train de se disperser aujourd'hui. Vous avez dû, il y a eu sûrement plein de sujets sur ce thème-là. Et le plus grand distracteur, en fait, de l'attention quand on mange, ce sont précisément les pensées de contrôle sur le poids. Les pensées de contrôle sur la nourriture. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est du gras, c'est du sucre. Il faudra, si j'en mange maintenant, il faudra que j'en mange beaucoup moins demain. Si j'en mange à l'entrée, il faudra que je réduise à la sortie, etc. Ça va vous voler votre attention. Et ça va vous empêcher de profiter de ce que vous ressentez complètement. Et je reviens sur ce que je disais, c'est que ce que vous ressentez, les sensations que vous ressentez quand vous mangez, c'est l'élément clé du rassasiement. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de rassasiement, vous mangez plus.
Héloïse Brion.
Oui, je suis d'accord avec le fait de savourer les instants avec les proches et puis ce qu'on va manger, et surtout la qualité. Je pense que quand on a quelque chose de qualité, on en a certainement moins, et donc on prend le temps.
Et quand on le prépare soi-même.
Alors, c'est encore mieux.
Allez, n'hésitez pas à intervenir au 01 45 24 7000 sur la page Facebook de Grand-Mère vous fasse et sur l'appli France Inter.
Je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? J'ai beau te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit: reparti. Je bouge à la souris, cours plus après le bonheur. Quand il est devant toi, que tu souris. Voilà ma seule terre à pied. Silence de ton absence, la vie m'apprend et je prends conscience que tu es pourtant la juste ici, si près de moi. Quand je me dis oui chaque fois,
interpréter thérapie.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
11h20, comment ne pas prendre 10 kilos pendant les fêtes, c'est notre thème ce matin. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Bienvenue Yolande.
Oui, bonjour.
Vous avez une question précise pour notre médecin Jean-Philippe Zermati.
Oui, mon médecin m'a diagnostiqué une hépatite tout récemment. Et donc, pas de gras.
Mm-hmm.
Donc pas de gras, pas de chocolat, pas de foie gras, pas de viande. Enfin bon, ça a été assez exhaustif comme régime. Donc je sais plus sur quoi je vais pouvoir me rabattre pour me faire plaisir, parce que les pommes vapeur et le poisson à l'eau, c'est vrai que ça fait pas rêver, quoi.
Docteur Jean-Philippe Zermati.
Bon, là je sais pas, c'est un cas que je connais pas, mais c'est un peu la question de Thierry tout à l'heure. Quand il y a un problème de santé qui impose du contrôle sur la nourriture, c'est tout à fait différent.
C'est différent.
Mais bien sûr, dès lors qu'il y a un problème de santé qui entraîne des exclusions ou du contrôle sur la nourriture, ben, on peut pas tellement faire autrement. Et il y a bien d'autres cas. Les insuffisants rénaux sont obligés de contrôler leur consommation de protéines. Ceux qui ont des maladies cœliaques, leur consommation de gluten. Les allergiques, d'exclure certains types d'aliments. Ça, c'est de la santé. On n'est pas dans les problématiques de poids.
Héloïse Brion, on peut manger sainement, sans gras, ni trop sucré, et se faire plaisir.
Oui, je pense que il y a tellement, entre toutes les herbes aromatiques, les différentes épices, les condiments, il y a énormément de choses qui apportent énormément de saveurs, sans devoir mettre des kilos de crème fraîche, de beurre et tout.
Qu'est-ce qu'elle peut manger, Yolande? Des crustacés, des fruits de mer,
Je sais pas maigres, ce qu'elle a, mais ouais. Je sais pas.
Elle a une hépatite.
Oui, mais je ne sais pas pour quelle raison elle a cette hépatite. Donc je ne veux pas me prononcer. Maintenant, moi, les hépatites que, enfin, ce n'est pas les hépatites, mais les problèmes hépatiques que je rencontre le plus souvent sont liés à des excès de poids. Et finalement, le traitement n'est pas de réduire la consommation de sucre ou la consommation de gras, mais de réduire les consommations tout court et le traitement de ces cirrhoses, de ces foie gras en fait, c'est tout simplement de perdre du poids. Et on peut le perdre en mangeant absolument ce qu'on veut.
C'est votre cas, Yolande?
C'est-à-dire que moi, je souffre d'une hépatite A. Je pense que c'est hépatite A. Je suis infirmière, je suis vaccinée, sinon, contre l'hépatite. Donc, je pense que la B et la C ne me concernent pas. Et puis, c'est une hépatite que j'ai contractée certainement via une source alimentaire contaminée. Et puis, en fait, c'est vrai que le médecin m'a dit pas de gras, pas de viande, mais je me demandais si effectivement les huiles végétales pouvaient être acceptées en moindre quantité, mais acceptées quand même, parce que faut mettre le foie au repos. Mais c'est vrai que une nourriture sans graisse absolue, c'est un triste relief de la table.
Jean-Philippe Zermati.
On est sur une problématique de santé, donc en fait là les recommandations vont être temporaires. Une fois que le foie se sera régénéré, Madame pourra remanger tout à fait comme elle en avait l'habitude avant.
Merci beaucoup Yolande de nous avoir appelé.
Vous entrez dans la catégorie surcharge pondérale classique de la Française gourmande. Du croissant au beurre, suivi de son petit frère au petit déjeuner, de la coupette de champagne avec sa farandole d'amuse-gueule pour fêter tout et n'importe quoi à tout bout de champ. Grosso modo, est-ce que je me trompe?
Non, j'adore manger.
Eh oui, résultat des courses, vous avez stocké un peu partout et maintenant, il y a du travail. Il va falloir désengorger tout ça.
Vous croyez que je vais réussir à maigrir, docteur?
Ma méthode est radicale. Vous allez me supprimer tout.
Tout? Qu'est-ce que je vais manger?
Rien.
Jean-Philippe Zermati, c'est une hérésie, ce que vient de nous dire le médecin dans le film J'ai faim.
C'est une hérésie dans le sens où ça n'a aucune chance d'être maintenu. Bien sûr qu'on mange rien, on perd du poids, mais après, comment on fait pour se maintenir? Un élément dont il faut avoir connaissance, c'est qu'on a un poids d'équilibre. Si vous mangez en fonction de
votre poids de forme,
non.
C'est pas la même chose.
Non. Non, malheureusement pas. Mm-hmm. Un poids d'équilibre.
Je vois bien la différence.
Qui peut se dérégler au cours de la vie. Qui peut même atteindre des zones tout à fait incompatibles avec la santé. Et c'est le poids d'équilibre, on pourrait appeler ça également le poids de faim. C'est-à-dire c'est le poids auquel vous ramène votre faim chaque fois que vous l'écoutez. passer au-dessous de ce poids vous impose du contrôle. Et ce contrôle, vous pouvez pas le maintenir, le contrôle mental, pour passer sous ce poids d'équilibre, vous ne pouvez pas le maintenir durablement, dans la continuité. Il y a obligatoirement des ruptures dans ce contrôle. Et l'alternance entre les périodes de contrôle et les périodes de perte de contrôle, au bout du compte, l'expérience le montre, ça conduit à une dérive ascendante du poids.
Voilà. Et le poids d'équilibre n'est pas forcément celui qui nous fait plaisir. C'est le principe de réalité qui s'impose à nous.
Quand on grossit, on peut fabriquer de nouvelles cellules graisseuses qui viennent s'ajouter aux précédentes, à celles qu'on avait avant, et qui ne vont plus disparaître. Donc elles vont modifier le poids d'équilibre. C'est pas un phénomène qui est... Il n'est pas général, c'est-à-dire qu'on ne grossit pas tous de cette manière-là, mais un certain nombre d'entre nous grossissent en fabriquant de nouvelles cellules qui ne disparaîtront pas et qui vont modifier leur poids d'équilibre. Donc quand elles vont vouloir perdre du poids, elles pourront pas retrouver leur ancien poids d'équilibre.
Peut-on dire que la volonté ne peut quasiment rien contre nos envies de manger ?
Alors la volonté va terriblement augmenter vos envies de manger.
Pourquoi ? Expliquez-nous.
En fait, plus vous allez lutter contre vos envies de manger, et plus vous allez augmenter vos envies de manger. Et plus vous allez devoir vous servir de votre volonté. C'est un cercle vicieux, vous êtes complètement coincé dedans. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. L'envie est l'expression, et généralement, quand tout fonctionne bien, est l'expression d'un besoin. Donc c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est quelque chose qui est nécessaire à votre bon fonctionnement physiologique. L'envie exprime le besoin. Donc quand un besoin est détecté, ça déclenche une envie. Et cette envie, dans le cerveau, va se traduire par une sécrétion de dopamine. Si vous vous opposez à cette envie, qu'est-ce que le cerveau va faire ? Il augmente encore sa sécrétion de dopamine, c'est-à-dire qu'il augmente encore plus l'envie. Et vous n'avez aucune chance de remporter cette bataille-là. Votre volonté ne peut pas, en permanence, s'opposer à vos systèmes de régulation. La volonté, ce qu'on appelle la volonté, c'est ça se situe dans une zone du cerveau, la zone frontale, qui nous permet de discuter, qui est une zone dans laquelle, en fait, dont les capacités sont extrêmement réduites, puisque ça nous permet de travailler. Et vous avez remarqué que quand on travaillait, on avait besoin de se reposer de temps en temps, alors que nous, nos systèmes de régulation, ils ne se reposent absolument jamais. Ce sont des systèmes qui sont absolument increvables, infatigables, qui travaillent sans arrêt. Donc, la volonté, c'est opposer, en fait, ces systèmes-là, ce contrôle mental, à ces systèmes de régulation. C'est David contre Goliath, il n'y a aucune... Enfin, c'est le pot de fer contre le pot de
terre.
Il n'y a aucune chance que ce soit le pot de terre qui gagne.
Comment on écoute sa faim ? Comment on sait que, voilà...
Alors, c'est pas tant la faim, c'est assez important malgré tout de savoir reconnaître sa faim et de démarrer un repas en ayant faim. Mais le plus important, c'est vraiment ce système des envies. La faim va déclencher une envie de manger. Quand vous mangez pas parce que vous avez faim en réalité. Vous mangez parce que votre faim a déclenché une envie. Mais il n'y a pas que la faim qui déclenche des envies. Une émotion peut déclencher aussi une envie. Et en fait, ce que vous écoutez en permanence, c'est pas ni vos émotions, ni votre faim, ce sont vos envies de manger. Et ce système des envies est au service de vos besoins. Je m'excuse de le répéter, c'est absolument essentiel. Plus vous allez vous opposer à vos envies de manger, plus vous allez dérégler ce système des envies, c'est-à-dire que ces envies ne seront plus du tout l'expression de vos besoins. Elles vont devenir complètement anarchiques. Elles vont apparaître de manière intempestive. Elles ne disparaîtront plus. Ça va être un gros désordre en fait.
Et Louise Brion, vous nous avez concocté ce matin un repas de fête relativement léger.
Relativement léger.
Alors, c'est quoi le menu ?
Alors, moi, je vous propose de commencer
livre.
Du livre. On va commencer par la tarte courgette burrata et huile de truffe. Mm-hmm. Il y a aussi des petits pignons et du zeste de citron mm-hmm. dessus. Donc, on fait des petites parts avec une petite coupe de champagne. Ensuite, la dinde aux clémentines et à l'ail avec une salade de haricots verts croquants avec des cranberries et des mm-hmm. noisettes et un peu de parmesan. Et ensuite, pavlova. Et alors, pour que ça soit de saison.
C'est quoi une pavlova, expliquez.
Pavlova, alors c'est comme une meringue, mais très moelleuse. Mm-hmm. Et donc, c'est surtout des blancs d'œufs avec du sucre.
Avec du chocolat fondu, peut-être.
Et alors, moi,
dans
votre recette. Et alors, moi, je vais chocolat fondu pour justement, pour Noël, des chocolats noirs fondus et un petit peu de menthe, d'extrait de menthe dans le blanc. Donc, ça fait un peu l'effet after eight.
Le secret de votre dinde aux clémentines, pour pas qu'elle soit sèche et qu'elle soit.
Alors, je masse, moi, que ce soit le poulet ou la dinde, je les masse et surtout je place un petit peu de matière grasse avec du zeste de citron entre la peau et la chair la veille et donc du coup ça le garde bien et tous les jus des clémentines et tout ça les garde.
Et les clémentines, ouais. Comment vous les utilisez dans cette recette de dinde?
Ah bah avec les jus, alors je mets dans la dinde autour, le zeste, sous la peau, enfin un petit peu partout.
Dernière question, Jean-Philippe Zermati, comment on fait pour maigrir en mangeant un peu ce qu'on veut? C'est ce que vous avez dit il y a quelques minutes.
Eh bien, je disais tout à l'heure que quelqu'un qui grossit, c'est quelqu'un qui a plus d'envie que de besoin. Donc, aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, c'est de travailler sur ce système des envies et de faire en sorte que les envies redeviennent l'expression des besoins. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez manger moins, ce qui va produire une perte de poids. Vous allez manger moins parce que finalement, vous n'aurez pas envie de manger plus. On a travaillé sur ce système des envies pour que vous ayez moins envie de manger. Je sais que c'est difficile à concevoir, mm-hmm. mais je vais peut-être le présenter différemment. On est tous capables de concevoir que plus on lutte contre nos envies, plus nos envies augmentent. Je pense que tout le monde l'expérimente. Eh bien, il faut être capable de concevoir le contraire. C'est que moins on lutte contre les envies, plus les envies diminuent.
Et puis un peu de bon sens après les repas de fête, ben il est bon de faire une marche digestive, hein?
Par exemple.
Allez, merci beaucoup docteur Jean-Philippe Zermati. Osez manger, c'est publié chez Odile Jacob. Merci Héloïse Brion chez Miss Maggie's Kitchen, c'est à offrir en fin d'année. Tout de suite, notre camarade Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale. Alors Thierry Lhermitte, je rappelle que vous êtes l'un des ambassadeurs de la Fondation pour la Recherche Médicale. Tous les mois, vous rencontrez une équipe de recherche. Et là, vous avez rencontré le professeur Vahid Asnafi à l'Institut Necker Enfants Malades à Paris. Il est chercheur et dirige également le laboratoire d'oncohématologie qui est spécialisé dans le diagnostic des maladies du sang à l'hôpital Necker. Son équipe développe des nouveaux traitements pour prendre en charge les leucémies aiguës qui sont des cancers agressifs. Un de leurs projets, notamment soutenu par la FRM. Pour commencer, qu'est-ce qu'une leucémie? Je rappelle que votre chronique qui est validé par le professeur Vahid Asnafi.
D'abord, il existe plusieurs formes de leucémie. Alors, c'est connu, la leucémie, c'est le cancer du sang. Comme vous le savez, Ali, toutes les cellules sanguines, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes se développent à partir de cellules souches dans la moelle osseuse. Et on est d'accord, la moelle, ce n'est pas la moelle épinière. La moelle osseuse, c'est l'os à moelle du pot-au-feu. Chez les patients atteints de leucémie, le développement des globules blancs est bloqué au cours du processus de maturation et y prolifère d'une manière incontrôlée. En conséquence, les globules blancs, immatures, envahissent la moelle osseuse, puis le sang, et empêchent la production des cellules sanguines normales. Et pour la petite histoire, est-ce que vous savez pourquoi on dit leucémie?
Non, pas du tout.
Eh bien, parce qu'il y a un médecin qui a observé que le sang était de couleur blanchâtre, et en grec, leucos, c'est blanc, et aima, le sang, donc le sang blanc.
Voilà. Alors Thierry, vous nous disiez qu'il existe plusieurs types de leucémie. Sur quelle leucémie travaillent les chercheurs que vous avez rencontrés?
L'équipe de Vahid Asnafi s'intéresse aux leucémies aiguës lymphoblastiques de type T. On va faire abréger plutôt, ça s'appelle la LALT. Alors elles sont dites aiguës parce qu'elles évoluent rapidement et sont agressives, et lymphoblastiques T car les globules blancs malades sont des lymphocytes T immatures qu'on appelle des lymphoblastes, et encore une fois parce que blast, en grec, ça veut dire immature. Voilà. Et cette leucémie, comme toutes les autres, est rare. Ça touche environ 200 nouvelles personnes chaque année en France, principalement des enfants et des jeunes adultes de moins de 30 ans.
Alors comment diagnostique-t-on cette leucémie et quel est l'examen de référence?
Alors le diagnostic, il est difficile parce que les symptômes ne sont pas caractéristiques, ils sont aussi présents dans beaucoup d'autres affections. Les patients sont fatigués, pâles, ils font des hémorragies, ont de la fièvre, des infections, des douleurs osseuses ou abdominales. Et les symptômes apparaissent en général quand les cellules cancéreuses sont au nombre de 1000 milliards. En fait, c'est une vraie tumeur qui pèse près de 2 kilos pour 1000 milliards de cellules, mais qui est diffuse dans l'organisme. Et l'examen clé donc pour le diagnostic, c'est la numération sanguine. Et on fait des examens complémentaires pour savoir, pour préciser le type de leucémie et adapter la prise en charge.
Alors où on est justement, où est-ce qu'on en est dans la prise en charge? On s'y perd un petit peu, on a parfois l'impression que le leucémie se soigne plutôt très bien, et parfois que ça reste une maladie difficile à guérir. Aidez-nous à y voir plus clair.
Ben c'est vrai parce que depuis 30 ans, le taux de survie global ne cesse d'augmenter. Pour certains types, on est aujourd'hui à 95% de guérison, mais pour la LALT sur laquelle travaille Vahid Asnafi, le pronostic de guérison n'est que de 50% chez l'adulte et 80% chez l'enfant. Et l'enjeu de la recherche actuellement, c'est de tendre vers 100% de guérison pour la leucémie. Alors le traitement de la LALT, comme celui des leucémies aiguës en général, c'est très lourd. C'est polychimiothérapie, donc plusieurs chimiothérapies de suite. Ça dure 2 ans et demi, avec 6 mois de traitement intense, et parfois ensuite radiothérapie ou greffe de moelle. Et le problème de la LALT, c'est la rechute, parce que 25 à 30% des patients récidivent, et à ce moment-là, les chances de survie sont extrêmement faibles.
Et c'est pourquoi l'équipe de Vahid Asnafi, que vous avez rencontrée, cherche à développer des traitements pour les rechutes, et pour les patients à risque de rechute. Expliquez-nous son projet.
Voilà, alors c'est là que c'est intéressant. Il faut savoir que le développement des globules blancs en question, les lymphocytes T, est bien plus régulé que celui des autres cellules sanguines. Inès, dans la moelle osseuse, donc, et puis il migre dans le thymus. Alors, le thymus, c'est un organe qui est dans la gorge, à la boucherie, c'est le riz de veau.
Ah bon,
on est dans la cuisine aujourd'hui. Le thymus, c'est un peu comme l'université des lymphoblastes, les étudiants lymphocytes. Parce que là, ils sont éduqués. Ils apprennent à reconnaître le soi et le non-soi, donc à repérer les envahisseurs de l'organisme pour assurer l'immunité. Et c'est une université extrêmement sélective, avec 3 examens, 3 points de contrôle. Et c'est également une université très cruelle, parce que si on ne réussit pas un examen, on reçoit un message et on doit se suicider. Donc finalement, au cours des 3 examens, 99% des lymphoblastes, les étudiants lymphocytes, sont éliminés, et il n'y en a qu'un pour cent qui sont considérés comme aptes. Ça, c'est pour les étudiants normaux. Les bons élèves passent, les autres s'autodétruisent. Le problème avec les lymphoblastes cancéreux, les cellules tumorales, c'est que ce sont des rebelles qui ne se suicident pas quand ils échouent à l'examen. Au contraire, ils s'échappent et ils vont proliférer dans l'organisme. La question que s'est posée l'équipe de Vahid Asnafi est la suivante. Est-ce que les mécanismes de suicide, de mort cellulaire, existant dans les cellules saines, sont réactivables chez le mauvais élève, la cellule tumorale? Est-ce que les cellules tumorales sont susceptibles de répondre aux messages qui induisent la mort cellulaire? Eh bien oui, cette hypothèse a été validée avec un message spécifique, un anticorps, qui a été testé dans un essai sur modèle animal. Et le traitement a permis d'éliminer les cellules tumorales chez les souris.
Y a-t-il un espoir de médicaments à plus ou moins long terme?
Eh bien oui, mais pour arriver au traitement, il y a des contraintes multiples parce que c'est une maladie rare. En France, on trouve seulement un faible nombre de patients susceptibles d'entrer dans un essai clinique. Il n'y en a que 20 à 50 par an. Il y a des risques d'effets secondaires potentiels importants parce que l'anticorps cible les lymphocytes T, donc risque de déclencher soit une activation, soit le contraire, une destruction massive et une perte de l'immunité. Donc le laboratoire de Vahid Asnafi travaille sur une forme particulière de cet anticorps pour diminuer les effets secondaires délétères. Et notamment grâce au soutien de la FRM, les chercheurs poursuivent leurs travaux pour identifier les 2 autres points de contrôle. Parce que d'un patient à l'autre, les cellules leucémiques peuvent proliférer aux différents stades de maturation, les 3 examens de passage. Donc un partenariat avec les industriels a été lancé pour développer un médicament qui pourrait exister dans les 5 ans à venir.
Comment aider la Fondation pour la Recherche Médicale, Thierry Lhermitte?
Sur frm.org, on peut faire un virement évidemment. Et puis, si on veut donner 10 euros prélevés sur sa facture téléphonique, il suffit d'envoyer le SMS don au 92-300.
92-300.
Voilà, qui est également le code postal de Levallois-Perret, mais ça ne va pas sur le compte des Balkany.
Merci beaucoup Thierry Lhermitte, on se retrouve évidemment au mois de janvier. Demain, nous recevons Philippe Delerme et le sociologue Pascal Lardelier qui décrypteront les gestes de notre quotidien.